Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast de Playground FR. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler or, on va parler statuette, on va parler trophée de fin d'année. Je vais faire un petit débrief sur les différents trophées qui seront remis à la fin de la saison 2021. Voilà, je fais un petit point, on va dire, de mi-saison, même si la mi-saison est un peu passée. Je profite, on va dire, de ce début de deuxième partie pour vous faire un petit point sur la course au trophée, qui est, ma foi, très intéressante cette saison. Même s'il y a pas mal de trophées où c'est déjà joué pratiquement, on a la course au MVP qui reste hyper ouverte et ça fait vraiment plaisir. Donc, pour chaque trophée, je vous donne mon petit top 3 et puis je vous donne aussi mon favori. Et voilà, je pense qu'on peut démarrer le podcast. C'est parti.
It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man.
On démarre tout de suite avec un trophée qui est déjà presque couru d'avance, malheureusement, même si, allez, on peut espérer quelque chose. Le rookie de l'année, qui sera le Roy 2021. Bon, mon top 3, on va commencer avec Anthony Edwards, qui est le first pick de la draft 2020. Voilà, déjà, c'est pas mal. Alors, malheureusement, heureusement pour lui, en tout cas, pour cette première saison, malheureusement, il atterrit chez les Wolves, qui sont la pire équipe de NBA. Donc déjà, voilà, bon, c'est généralement le lot des rookies, ils rejoignent souvent les pires équipes, en tout cas les meilleurs rookies. Mais là, c'est vraiment crado, avec la longue absence de Karl Anthony Towns, qui est revenu maintenant, d'Angelo Russell aussi également. En fait, bon, forcément, du coup, cette équipe est très mauvaise sans les deux meilleurs joueurs. Mais on a quand même Anthony Edwards qui fait deux jolies perfs, hein, donc. Pour ses moyennes, c'est 16 points, 4 bons, 2,5 assists. Ce qui, en soi, sont de très jolies moyennes en étant rookie. Par contre, petit bémol pour lui, il a des pourcentages très très crado. Il est à peine à 40% au tir global. Et pareil, il doit être à 30% au tir à 3 points. Donc, bon, c'est sa première saison, c'est normal. C'est le temps de s'adapter au jeu NBA. En tout cas, moi je le place sur mon top 3, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si, à l'heure où j'enregistre, il a sorti sa plus grosse perf sur sa saison rookie, et pour le moment, hein, donc 34 points il a mis face à Portland, donc dans un beau combat face à Damian Lillard, c'était plutôt cool. Et en plus, Minnesota a gagné, donc franchement, je pense que voilà, la soirée réussie pour les Wolves, ça met un peu de sourire à cette équipe qui, malheureusement, a encore une saison à jeter à la poubelle. Ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, le coach a été viré. Ryan Saunders a été limogé. Alors, je ne pourrais pas vous dire par qui il a été remplacé. Je fais mal mon travail. Mais en tout cas, ça prouve bien que ça ne fonctionne pas cette année. En même temps, comme je l'ai déjà dit, tu n'as pas tes deux meilleurs joueurs. Donc, c'est forcément, ça handicape toute l'équipe. On continue avec Tyrese Haliburton, voilà, le seul qui suit un peu le rythme de la course pour le rookie de l'année. Évidemment, il est derrière LaMelo Ball, voilà, je le dis tout de suite puisque c'est un peu un secret de polichinelle. Donc je le dis, c'est le seul qui suit le rythme. Donc il a été élu deux fois rookie du mois, comme son copain LaMelo Ball. Ben, je vais parler des deux un peu en même temps, parce qu'en fait je trouve que c'est un peu, ils sont un peu, Tyrese Haliburton, c'est un peu l'alter ego de LaMelo. En fait, talent offensif certain, capable de tout sur le terrain, on le voit, si 13 points, presque 4 bons et 5 passes de moyenne pour Haliburton. Donc voilà, il est capable de tout faire, il a des très très bons pourcentages d'ailleurs, hein, contrairement à monsieur Edwards, donc ça c'est cool. Je disais talent offensif certain, il est capable de tout. Par contre, plus compliqué en défense. Et je pense que les Kings sont très très contents de l'avoir récupéré en 12e choix de draft. Franchement, c'est un très beau style de draft de ce qu'on en voit pour le moment. Il fait partie des meilleurs sixième hommes en plus, déjà de la saison, puisqu'il est, il sort du banc. Par contre, il termine toujours les matchs. Ça, c'est fou parce qu'il est hyper clutch. C'est plutôt très cool pour l'équipe, en tout cas, des Kings. Je continue. La Melo Ball. Voilà, bon, ça, vous l'avez deviné. Comme je le disais avec Haliburton, ben, il est aussi capable de tout faire sur le terrain. Donc, il a une espèce de smoothitude. Il est tellement smooth sur le terrain, niveau offensif incroyable, capable de tout, une vista de malade. Il fait... En plus, il sort des stats très, assez impressionnantes à base de 16-6-6. Pareil, deux fois rookie du mois. Puis il va aller chercher le mois de mars aussi. Et puis tous les mois qui suivent, puis quand tu es tout le temps rookie du mois, à la fin, tu es rookie de l'année. Ça paraît logique. Donc je pense. Enfin, je pense qu'il va aller chercher tous les autres rookies du mois. Je ne vois pas à l'est, il y a Emmanuel Quickly qui pourrait un peu l'embêter. Mais en fait, le fait que les Hornets soient dans le top 6-7, c'est hyper impressionnant. Personne les attendait là. Hein. On ne va pas aller dans le top 10, pourquoi pas. Qui commence à gratter d'être au-dessus du play-in. Personne ne voyait ça. En tout cas, surtout pas moi, parce que je ne sais même pas si je les ai mis dans le top 10. mais voilà, la Melo Ball, hyper impressionnant. Et franchement, ça fait plaisir de voir des rookies comme ça qui se donnent. Donc voilà, choix gagnant pour les Hornets du côté de la Melo Ball. Continuons avec le trophée de sixième homme de l'année. Bon, on va faire dans cet ordre-là. Sixième homme de l'année. Ça n'a pas été facile. Bon, il y a pareil, comme les rookies, il y a un mec qui écrase toute la concurrence. Mais après, ça n'a pas été facile de faire mon choix pour les deux autres bonhommes que je vais citer. J'ai envie de citer d'abord Carmelo Anthony. Ça fait très plaisir de voir Melo ici, qui se débrouille très bien dans une équipe de Portland qui est minée par les blessures, malheureusement, et qui est quand même, pareil, dans le top 5-6, qui se bat pour être au-dessus du play-in. Donc, alors, forcément, c'est tout de suite la cause principale de ce bon rythme est due à Lillard, évidemment, puisqu'il fait une saison de grand malade. Mais sans CJ McCollum, qui doit normalement revenir bientôt, et Yusuf Nurkic, encore une fois, eh bien, on a un Carmelo Anthony qui envoie 14 points, 3 rebonds, petite passe, un contre, une interception. Enfin, il fait son rôle à merveille. Il est troisième meilleur scoreur même de sa team, hein, en attendant le retour de CJ McCollum, évidemment, parce que McCollum avait fait un début de saison de grand malade à base de presque 27 points de moyenne. Donc là, si on met McCollum dans l'équation, ça met Anthony en quatrième scoreur de son équipe. Mais mine de rien, troisième meilleur scoreur de la team en sortant du banc. C'est très sérieux, et puis c'est cool, là il est passé 11e meilleur scoreur all-time, voilà, ça fait plaisir de voir Carmelo Anthony mettre de la filoche dans une équipe qui gagne, hein, donc c'est très très cool, même si, je viens de le dire, ils ont perdu face aux Wolves, hein, ce qui est un peu, pas inquiétant, mais c'est un peu honteux quand même, et puis en plus, hein, oh là là, ce parallèle entre les joueurs que je cite, Anthony Edwards a eu un petit coup de trash talk sur Carmelo. Vous irez voir les images quand il fait la mythique célébration de Carmelo après lui avoir mis un petit 3 points sur le nez. C'est magnifique. Deuxième candidat au titre de sixième homme de l'année, je vais quand même citer Montrezl Harrell. Hein, j'ai pas cité d'autres joueurs, mais on a des Chris Boucher qui s'en sortent pas trop mal. On a des... comment il s'appelle le joueur des Sixers ? Shake Milton qui gère bien aussi dans une équipe qui est première de sa conférence. Donc, mais j'ai choisi de mettre Montrezl Harrell, qui est moins en avant que la saison passée. Clairement, l'année dernière, c'était une grosse bataille entre Harrell et Schroeder, remportée par le pivot. Mais il reste l'un des meilleurs sixième hommes de la Ligue, clairement. Il apporte toujours son eux seul de grand fou dans l'une des meilleures équipes de la NBA, puisque les Lakers sont à l'heure actuelle 3e de leur conférence, et ça doit être genre top 5 au total. Je trouve qu'il a, pour ma part, je trouve qu'il a progressé en défense en plus. Au début de saison, il était vraiment ciblé en défense, c'était vraiment catastrophique. Surtout, on l'a vu, genre le premier match face aux Clippers, c'était vraiment affolant, puisque ben, c'était... On fait une iso sur Harrell, on marque, on défend, on refait une iso sur Harrell. Ah, c'était... Bon, je trouve qu'il a, il a pas mal progressé de ce côté-là du terrain. En même temps, il est dans l'équipe qui a le meilleur defensive rating, donc ça peut faire du sens, surtout qu'il était avec Anthony Davis. Donc voilà, ça fait sens. Si je fais un petit point stat, il a 14 points également, 6,5 rebonds, puis il doit, vous voyez, une passe, une interception, et puis un contre, je crois que c'est pareil, il a des stats bien complètes. Alors, il y a d'autres joueurs hein, qui sont très bons sur le banc des Lakers, mais je trouve que c'est quand même le leader. C'est vraiment le leader des champions, le leader en sortie de banc, évidemment, des champions en titre. Donc voilà, je préfère le... Surtout avec la blessure d'AD, il doit se donner un peu plus encore. Donc, c'est très bien de mettre Montrezl Harrell dans le top 3, on va dire, de mes joueurs pour la course au 6e homme de l'année. Je suis curieux de savoir qui vous mettez en top 3 de votre course au Six Man. Ça m'intéresserait de savoir ça. Venez me le dire sur Instagram, évidemment. Toujours petite pub calée pour Instagram. Et bien sûr, je pense que vous avez déjà compris, comme le meilleur rookie de l'année, j'ai pas besoin d'épiloguer trop longtemps. Moi, je mets Jordan Clarkson en favori du trophée, évidemment. Enfin, en favori de cette course. Puisque déjà, le Jazz démonte toutes les attentes. Puis, bah, on va pouvoir en parler d'autres joueurs du Jazz, hein, y a pas de problème. D'autres joueurs ou des mecs en costard. Qui sont pas en costard cette saison, mais vous voyez de qui je parle. Ils sont top 1 de l'Ouest, évidemment, top 1 de NBA également. Pour parler plus précisément de Clarkson, il est parfait dans son rôle. Il envoie quand même 18 points par match, accompagné de 4 petits rebonds, en sortie de banc, ça, évidemment, et en 26 minutes de jeu. Donc 18 points par match en 26 minutes de jeu, ça envoie. Et bien, bah en fait, ce qui est parfait, c'est que bah, Snyder, il lui demande pas de réfléchir. Il lui demande juste de marquer des points et de prendre la balle et faire son jeu, envoyer du 3 points en balle. Et puis basta. C'est juste ce qu'on veut voir, quoi. En tout cas, ce qu'on veut voir de Clarkson, puisqu'il n'est pas un QI basket très élevé pour faire des passes. Et puis de toute façon, il a des véritables œillères. Donc voilà, c'est top. Il est super bien utilisé à Utah. Ça fonctionne très très bien. Ils ont eu la chance aussi de pas être trop touchés par des suspensions de joueurs, même pas du tout. Hein, ils ont leurs 5. Je l'ai déjà dit, je crois, dans un podcast consacré aux Français où je parlais de Rudy Gobert pour expliquer la très bonne saison du Jazz, évidemment. Ils ont leurs 5 majeurs qui déchirent. Ils ont leurs remplaçants qui sont très bien aussi. Donc. L'alliance entre Jordan Clarkson qui marque à tout va et Joe Ingles qui fait des passes, c'est parfait. C'est parfait, ça marche très 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 bien. C'est pour ça que Jordan Clarkson est mon favori pour le titre de rookie, oh là là, pour le titre de sixième homme de l'année en 2021. On continue. Le coach de l'année qui... sera d'après moi le coach de l'année, c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas énormément de débat, il y a peut-être un peu plus de débat que pour les deux premiers trophées que je viens de citer, mais il y a quand même un coach qui tire clairement son épingle du jeu dans la course au coach de l'année. Bon, je vais commencer par, on va dire, mon troisième, même si je ne suis pas trop troisième ou deuxième, je ne sais pas, je vais mettre Doc Rivers en troisième. Changement d'équipe, changement de conférence. Le Doc, bah, il prend la tête directement de la conférence Est. Alors c'est vrai que les Sixers, ils sont plus adaptés cette année au fonctionnement de leur équipe. Ils ont plus de shooters, on en a déjà parlé. Ils ont bien géré, Daryl Morey a bien géré cette intersaison. Mais ils passent quand même d'une 6e place de conf et un sweep de ouf en playoff à la tête de leur conférence et ils doivent être, à l'heure actuelle, ils doivent être deuxième de la NBA, deuxième 3, top 2, top 3 de la NBA au global. Donc, on sait qu'on se moque un peu de la conférence Est qui est moins bonne que la conférence Ouest, où les équipes sont moins compétitives, puisque là, pendant longtemps, on avait un top 3 qui était full conférence Ouest, puis les Sixers arrivaient en 4 derrière, mais là, c'est vrai que du coup, ils ont engrangé pas mal de victoires. Malheureusement, Joel Embiid s'est blessé, mais voilà, Doc Rivers, il blague pas. Je vous check vite fait, voilà, 27-12 à l'heure actuelle pour les Sixers, c'est propre, hein. C'est très très propre, surtout que là en plus ils sont sur une jolie série de 5 victoires, malgré la blessure de Joel Embiid, encore une fois, on a eu peur pour lui, mais j'en reparlerai un peu plus tard. En tout cas, le Doc, voilà, il mène sa barque, hein. Il a une bonne équipe, mais il mène plutôt bien sa barque, il gère son équipe. Il est connu pour être un bon meneur d'hommes en règle générale. Donc ça fonctionne plutôt bien. Deuxième gros candidat à cette course au Koi, coach de l'année. Évidemment, qui d'autre que Steve Nash, voilà. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, hein, pareil. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me le dire sur Insta. Ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse débattre de ce genre de questions. En tout cas, Steve Nash, il arrive, coach rookie, et puis il trust déjà sa conférence, puisque bah, il est juste derrière les Sixers, hein, pour le bilan 26-13. Voilà, donc il est très proche, hein, ça se bataille en plus pour la première place. Alors, évidemment, je vous entends déjà arriver dire « Ouais, Steve Nash, il a 3 potentiels MVP dans son équipe, forcément, ça gagne !» C'est vrai que je suis plutôt d'accord. Bon, il a déjà 2 MVP. Et puis, même si Kyrie a jamais été MVP, cette saison, il fait quand même des stats bien, bien salaces. Donc, c'est vrai que c'est plus facile quand tu as une équipe de méga stars d'être premier de ta conférence, on va dire. Mais il faut savoir manager tout ça, jouer avec les égos de tout le monde, même s'il y a. A priori, s'ils sont tous dans la même équipe, c'est qu'ils voulaient être ensemble. Donc, ça doit plutôt bien s'entendre. Mais voilà, il faut gérer les égos, que tout le monde marche dans la même direction. Et Steve Nash fait ça avec brio. Alors, quelques galères en défense, ça va mieux même. Au début de l'année, c'était vraiment, vraiment cracra. Hein. Les Nets, ils se sont pas mis tout de suite sur les bons rails. Et surtout, parce que je dis qu'ils ont, un trio de grands dingues, mais ça fonctionne très très bien, alors que KD est absent depuis, je pourrais même pas vous dire depuis quand il est absent. Il a raté quoi? Il a raté un mois de compétition, KD. Donc forcément, quand t'as Harden et Kyrie, ça marche quand même bien, surtout au vu du niveau de James Harden qui est complètement, complètement incroyable. Bah, il fait tout ça sans KD, donc c'est quand même une jolie perf. Et puis en plus, d'après ce que j'ai vu, ils veulent prendre leur temps. Donc Kevin Durant, il va pas revenir tout de suite. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est pas le plus important. Hein. Qu'il se remette bien de sa blessure, c'est le plus important. Qu'il revienne en saison régulière, je pense que c'est pas la priorité. La priorité, c'est d'aller détruire tout le monde en playoff et d'aller récupérer le titre dès l'année 1. Voilà pour Steve Nash et ses Nets. Je pense que j'ai fait le tour. Évidemment, je pense que pareil, vous avez encore compris l'histoire. Promis, le prochain trophée, il y aura moins obvious qui est le grand favori de cette course. Mais Quinn Snyder, pour moi, favori de cette course au trophée de coach de l'année. J'en ai déjà parlé avec Mr. Jordan Clarkson, mais le Jazz roule sur tout le monde, meilleure équipe de la Ligue. Pour parler du bilan, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, 28-10 à l'heure actuelle, c'est hyper carré. Utah est au top en défense comme en attaque, ça doit être top 3 je crois, attaque, top 3 défense, en tout cas c'est pas sous le top 3, ça m'étonnerait. Mais du coup, Quinn Snyder, il gère très très bien son équipe. Même dans les matchs chauds, ça gère tranquille. Malgré le fait que personne prenne Utah sur NBA 2K. En attendant, voilà, sur le terrain et dans la vraie vie, il n'y a pas de débat. Alors, je le disais du coup en parlant de Clarkson, c'est vrai, il a eu la chance de ne pas avoir à gérer les joueurs absents à cause de la pandémie, ce genre de choses. Voilà, il a eu la chance de pouvoir compter sur tout le monde tout le temps. Mais bon, voilà, faut quand même le faire. Qui voyait le Jazz prendre la tête de la Conférence Ouest et la conserver aussi longtemps? Alors, la saison n'est pas finie. Il y a une autre équipe hyper surprenante qui peut venir peut-être les embêter. Mais en tout cas, Quinn Snyder, pas de débat. Très, 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 très bon coach. Et qui est, pour moi, encore une fois, le grand favori de cette course au coach de l'année. On continue et on va encore parler d'un joueur du Jazz, puisqu'on va parler du trophée de défenseur de l'année, le DPOY, comme on le dit si bien du côté des États-Unis d'Amérique. Bon, outre les blagues, mon top 3, il est plutôt obvious, je pense. Mais il y a un joueur qui, ça change un peu, ça change de voir Mikal Bridges. Oui, 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 vous avez bien entendu, je mets Mikal Bridges dans les meilleurs défenseurs de l'année. Bon, après, je pense qu'il y a deux joueurs ça fait un peu comme les rookies, il y a deux joueurs qui se détachent, on va dire, largement de cette course. Et puis, le troisième, vous mettez qui vous voulez. Moi, j'ai mis Mikal Bridges, puisque déjà, bravo les Suns, clap, clap, clap. Ils sont trop forts cette année, ils sont deuxièmes de leur conférence. Et au-delà des Booker qui va peut-être causer dans la course au MVP, des Chris Paul et autres DeAndre Ayton, Mikal Bridges, il joue un rôle très très important dans cette équipe, évidemment surtout en défense, parce qu'en attaque, c'est un peu plus compliqué. Et quand même, parce qu'on dit que Phoenix, ils sont forts. Mais j'avais pas regardé avant de commencer à préparer ce podcast. Phoenix, ils ont le sixième defensive rating de la ligue. Et oui, et ça, comparé déjà à l'année dernière où ils étaient 17e, c'est un énorme step-up. Mais alors, quand on parle des années d'avant, bon, forcément, ils étaient mauvais. Mais les années d'avant, ça ressemblait plus à du 28, 29, 28, 30. 20. Ouais, vous avez compris, quoi. Donc, un énorme step-up d'être direct, de rentrer dans le top 6. Des meilleures défenses de la ligue. Même, ils étaient top 5 pendant un moment. Je crois qu'ils ont dû régresser un peu, mais je pense qu'ils étaient top 5 pendant un moment. Donc c'est vraiment vraiment, bah, Mikal Bridges, il est pas étranger à cette très 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 bonne défense. Il a, pour parler un peu de stats, il a presque un contre et un steal de moyenne pour le moment. Bon, les stats, c'est pas le plus impressionnant, parce que forcément, Quand t'es élu Defensive Player of the Year, c'est pas forcément les stats qui sont importantes, c'est surtout l'impression que tu donnes sur le terrain. On va en parler avec Ben Simmons juste après. C'est vrai que l'impression visuelle, quand tu regardes le match et tu dis « Ah ouais, lui, il éteint vraiment son vis-à-vis », c'est ça qui est le plus important quand tu veux prétendre au trophée de DPOY. Et pour le coup, Mikal Bridges, c'est vraiment pas mal, hein. Il est capable de défendre sur n'importe quel joueur, extérieur principalement. Et aussi, comme son pote Ben Simmons, je vais en parler juste après, c'est lui qui prend, il prend toujours le meilleur joueur, en fait. Hein, comme ça, voilà. Chris Paul, très très bon défenseur aussi. Mais comme ça, Chris Paul et Booker, ils peuvent tout donner en attaque, en défense. Mikal Bridges gère le bail, comme on dit. Pour parler un peu de perf, parce que du coup, on va dire que c'est un peu plus parlant au-delà de dire que c'est un bon défenseur qui peut défendre sur tout le monde. Il a limité quand même Tatum à un 8 sur 22, donc ce qui fait un pourcentage pas très élevé, ou un Doncic dans des victoires. Je prends des matchs dans des victoires, parce qu'évidemment, bon, c'est bien d'éteindre le joueur avec qui tu es en opposition directe, mais si c'est pour perdre à la fin, bon, ça sert un peu à rien. Mais du coup, voilà, ça fait du bien, un peu de jeunesse pour le trophée de DPOY. Bon, je parlais de Ben Simmons, il est aussi jeune, en fait, c'est vrai que je dis ça, mais un peu, on va dire, de 109, quoi. C'est pas des joueurs dont on a l'habitude de parler, donc En plus, ce sera sûrement un candidat très sérieux pour les années à venir. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris Michael Bridges pour parler d'un mec dont moi je parle pas beaucoup. Bon, je fais pas beaucoup de podcasts, mais en tout cas, voilà, on n'en entend pas énormément parler. Et puis les Suns font une super saison. Donc voilà, petite case dédiée à mes fans des Suns. Vous l'avez compris, deuxième joueur. Alors c'est difficile de les départager, mais je suis chauvin, hein. Je suis français, donc on est bien chauvin en France. Donc je vais garder Rudy Gobert pour la fin, et on va parler un peu de Ben Simmons. Évidemment, je l'ai déjà dit avec Doc Rivers, premier de sa conférence, les Sixers ont un defensive rating hyper impressionnant aussi, puisqu'ils sont deuxième, forcément, si ton équipe... Enfin, si tu es le meilleur défenseur de ton équipe, mais que ton équipe a le 28e defensive rating, bon, ça sert à rien, tu seras pas élu meilleur défenseur de la saison. Donc, je digresse. Donc, deuxième defensive rating de la Ligue, et pareil, lui, il s'occupe des meilleurs extérieurs tous les soirs, enfin du meilleur extérieur, des meilleurs extérieurs, vous voyez ça comme vous voulez. Pareil, les stats sont pas hyper impressionnantes, il est quand même à presque 2 interceptions, je crois que j'ai exagéré un poil parce qu'il doit être à 1,6, 1,7, bon allez, on dit presque 2, ça passe mieux, et un contre, presque un contre, donc c'est quand même pas mal, mais c'est pas des stats, genre comparé par exemple à... C'est vrai que je parle pas des rebonds puisque c'est des joueurs plutôt extérieurs, mais Ben Simmons il prend quoi, 7-8 rebonds de moyenne. Donc je vais plus parler des rebonds avec Rudy Gobert, mais c'est vrai que j'ai pas mis les rebonds là sous mes yeux. Mais du coup, comme je disais, c'est pas forcément les stats les plus importants. Le plus important c'est ce que tu montres, et on va dire il y a quand même des gros matchs où tu dis ah ouais là tu vous souvenez de ce match là comment il a éteint son vis-à-vis. Donc ça joue pas mal dans la tête des votants. C'est comme quand tu prétends au titre de MVP, quand tu fais des très grosses perfs, ouais, décidément, et que ça a marqué les votants, c'est le plus important. Mais du coup, Ben Simmons, un peu dans le profil de Bridges, il est capable de défendre sur tout le monde. Avec sa taille, il peut contenir tous les meneurs, puisqu'il défend principalement sur des meneurs des postes 2. Et puis en plus, il est très très rapide. Donc en fait, c'est juste le combo parfait de la taille pour contenir et de la rapidité pour pas se faire dépasser. Bah voilà quoi, vous avez un gros candidat, un candidat très sérieux pour le trophée de Defensive Player of the Year. Pour dire un peu qui il a pu éteindre, je me suis noté un petit Donovan Mitchell deux fois. Alors, il y a un match où ils ont gagné, un match où ils ont perdu. Mais notamment dans le match où les Sixers ont gagné, celui qui a eu lieu la semaine dernière, où il y a eu un petit scandale parce qu'il a été un peu volé par les arbitres. Mitchell, il a quand même fini à 12 sur 35, donc c'est pas très propre. Et surtout, il a éteint complètement Damian Lillard, qui, quand même, cette saison, Monsieur Lillard, très très candidat au titre de MVP, eh ben, il l'a limité à 6 sur 21, au tiers. Voilà, je prends ça, mais après allez voir peut-être si vous trouvez des vidéos, ce sera peut-être plus parlant. Et je pense qu'avec la blessure de Joel Embiid, il va avoir encore plus de travail, il peut encore un peu plus sortir du lot, parce que du coup c'est vrai qu'il s'occupe principalement des joueurs extérieurs et Embiid des joueurs intérieurs, mais comme il est assez grand, c'est vrai qu'en fait il peut défendre tous les postes, hein, Ben Simmons, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi pas le voir un peu défendre des fois, descendre un peu sur des postes 4, des postes 5 et se donner sur ce genre de poste-là. Ça peut être intéressant là, pour les 2-3 semaines où Embiid va être absent. Alors attention, il peut prendre le lead sur cette course au trophée. Je finis Cocorico, je finis avec Rudy Gobert. Après, deuxième étoile sur le maillot, ça fait plaisir. L'année dernière, il avait déjà été All-Star, mais il avait été un peu en dessous de ses deux années de défenseur de l'année. Là, Rudy, cette saison, il revient très fort. Je pense qu'il a été un peu vexé, un peu piqué de pas avoir réussi à faire le triplé et rejoindre Monsieur Big Ben dans les deux seuls joueurs qui ont fait des triplés. Mais là, cette saison, c'est très très sale, hein, Rudy Gobert. Bon, je l'ai déjà dit, mais ils sont premiers de conférence, voilà. C'est un peu redondant au bout d'un moment. Troisième meilleur défense, de la ligue pour le Jazz. Et en termes de stats, qu'est-ce que ça donne Gobert? Ça donne 13,5 rebonds de moyenne. Il est deuxième, c'est la deuxième meilleure moyenne et il est meilleur rebondeur défensif. Donc, c'est quand même assez important d'être bon au rebond défensif quand tu prétends au titre de défenseur de l'année. Et en termes de contre, il est presque à 3 contre de moyenne, ce qui est, alors, j'ai pas envie de dire largement plus, mais pour ces années où il a été élu défenseur de l'année, il était à 2. Là, il est presque à 3. Il est deuxième meilleur contreur derrière Miles Turner, évidemment. Qui d'autre? Mais c'est vrai qu'il fait des très grosses moyennes. Et puis, il fait des très grosses perfs également. Bon, déjà, on sait que quand t'as Rudy Gobert en face de toi, t'as pas envie d'aller dans la raquette. Hein, ça, c'est toujours la même chose. Mais là, il a quand même fait 3 matchs en 20-20. Donc, évidemment, 20 points, 20 rebonds. Déjà, on voyait 20 rebonds. C'est vraiment pas mal. Je crois que ça doit être dans des victoires. Hein, les deux matchs, je ne me le suis pas noté. Mais les deux matchs à 20 rebonds, ça doit être dans des victoires. Puisqu'ils ont perdu très peu de matchs, le Jazz. Et surtout, il a envoyé cette nuit 28 rebonds face aux Warriors. Alors, c'est dans une défaite. C'est dommage. Mais c'est un record en carrière. Et en plus, c'est un record de franchise. Donc ça peut jouer. Hein. Ça peut jouer dans la tête des votants. Record de franchise dans une franchise où il y avait quand même Karl Malone qui n'hésitait pas à aller se battre dans la raquette, au sens propre comme au sens figuré. Il n'y a pas de... Mais voilà, je pense que Rudy Gobert, pour moi, en tout cas, il a une petite avance pour le moment sur Ben Simmons pour atteindre la statuette du défenseur de l'année, ce qui ferait sa troisième. Et ça commence à faire pas mal. Hein. Moi, allez-y, hein, donnez-lui tous les trophées de meilleur défenseur, ça me va. Ça me va, c'est cool. S'il peut rejoindre un certain Dikembe Mutombo, ça ferait grandement plaisir. Voilà pour ce qui est du meilleur défenseur de l'année. On grimpe petit à petit vers les trophées les plus intéressants, même si défenseur de l'année, c'est quand même très intéressant. MIP, qui sera le Most Improved Player, selon moi. Et c'est vrai que, encore une fois, il n'y a pas trop débat dans ce trophée, en tout cas, selon moi. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Il y a des joueurs qui font des step-up énormes en termes statistiques, donc c'est vrai que c'est important, mais je pense que le plus important, c'est, on va dire, le step-up que ton équipe fait en même temps que toi. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais par exemple, on va prendre un exemple simple. J'ai mis dans mon top 3 Jeremy Grant. Alors, Jeremy Grant, c'est bien. Il prend deux fois plus de tirs que la saison dernière. Il envoie 12 points de plus de rebonds, plus 2 rebonds le chiffre, hein, plus 2 passes décisives également. Donc, en termes statistiques, il explose complètement. Mais les Pistons, bah, ils explosent aussi. Hein, ils sont complètement, complètement éclatés. Ils sont avant-derniers de NBA. Ils sont à la ramasse, que ce soit en attaque ou en défense. Bon, toi, quand t'es avant-dernier, même si t'es super bon d'un côté du terrain, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais voilà, Jeremy Grant, il explose complètement. Il a envoyé plusieurs matchs à plus de 30 pions. Il a fait, je crois, deux matchs à plus de 30 points. Et en plus, dans des victoires, hein, c'est assez rare pour le souligner cette saison, contre les Nets et les Suns. Donc ça peut quand même rentrer dans la tête des votants, par exemple. Et il a mis 43 points aussi, record en carrière, les 43 points pour Jeremy Grant contre les Bulls, mais malheureusement, c'était dans une défaite. Seul petit défaut, je dirais, c'est que les pourcentages, contrairement à la saison passée, où il avait aussi un usage rate, donc pour ceux qui ne sont pas très anglophones ou qui ne connaissent pas trop cette statistique, usage rate, c'est donc l'utilisation, le temps d'utilisation du ballon par le joueur. Donc il est passé de 18 à 27%, mais forcément quand tu tires plus, quand tu as plus le ballon, on va dire que les pourcentages, sauf si tu es vraiment bon, les pourcentages, la première saison, ils peuvent baisser un peu, donc c'est le cas. Mais en tout cas, lui, en tant que perso, si on devait prendre que sa saison, elle est complètement réussie. Et même si Détroit, c'est cata, bien, il mérite ses 18, ses 20 millions par an. Donc voilà, il a fait mentir un peu ses détracteurs, c'est pas mal. Un autre joueur qui mérite le trophée de MIP, mais qui lui aussi devra s'incliner, Jaylen Brown. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que Jaylen Brown, c'est on va dire le deuxième joueur dans la course au MIP. Déjà, première étoile de All-Star, donc c'est très très bien. Et puis, il a encore pris une nouvelle dimension cette saison. Statistiquement, c'est plus 4 points. C'est pas énorme comme step-up statistique. Il prend un chouille moins de rebonds, mais il envoie aussi un peu plus de passes décisives. Il est à plus 2 assists en moyenne. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Contrairement à Détroit, les Celtics, c'est dans le top 5 de la conférence Est. Hein. Donc déjà, ça aide pas mal pour on va dire, le dossier de Jaylen. Voilà, à l'heure actuelle, ils sont 5e, juste derrière Miami. Donc forcément, s'ils peuvent accrocher le top 4, ça aidera encore plus Brown à aller chercher ce trophée. Mais il se donne toujours autant de son côté du terrain. Donc ça, c'est très bien. Très bon défenseur, Jaylen Brown. Il a même démarré la saison en 50-40, bon, pas 90 parce que c'est pas un très bon shooter de lancer franc, mais 50% au tir et 40% à 3 points, ça a baissé un peu malheureusement. Il est un peu en dessous les 40%, les 50% au tir maintenant et un peu en dessous pour les 3 points également. Mais en tout cas, il a dû step up pour combler l'absence de Marcus Smart qui était blessé. Et on va dire l'absence de Kemba Walker, parce que bon, lui aussi il était blessé, il n'a pas démarré la saison en décembre. Mais même s'il est revenu, il rame pas mal. Hein, comme je parlais, Anthony Edwards qui a des pourcentages un peu crado, je crois que Kemba Walker il bat encore plus ses pourcentages. Il doit être à 30% au tir, un truc comme ça, c'est un peu catastrophique. Mais voilà, Jaylen Brown avec son pote Jason Tatum, il joue des coups de tous les deux pour rester dans le top de la conférence Est. Et je pense que ça peut être un candidat sérieux au titre de MIP. Même si vous l'avez compris, je pense, il s'incline face à Julius Randle. Voilà, soyons sérieux deux minutes. Qui mettait New York dans le top 6, top 7 ? Allez. Bon, qui mettait New York en playoff alors, avant que la saison démarre, personne. Qui voyait Julius Randle en 11-6, donc 23 points, 11 rebonds de moyenne et 6 passes, oh, ça me paraît complètement invraisemblable. Est-ce qu'il y a débat du coup dans cette course quand on sait qu'il tourne à des statistiques pareilles et qu'il emmène New York dans le top 6 de la conférence Est ? Franchement, je suis pas sûr. Après, pareil que Jaylen Brown, c'est pas une explosion statistique, puisqu'il a 3 points en plus de moyenne, 2 rebonds et 3 assists. Alors, il prend 2 rebonds de plus que la saison dernière, mais je crois que la saison dernière, il était un peu en downgrade par rapport à sa saison, encore celle d'avant. Je crois que la saison dernière, je sais pas si j'ai pris les stats comparé à sa meilleure saison ou comparé à la saison dernière. Mais ce qui est surtout le plus fou, c'est qu'il dégage une maîtrise de fou, c'est le cas de le dire. Et puis bah, il a enlevé ses œillères, quoi. Donc 3 plus 3 assists de moyenne, c'est très impressionnant. Surtout pour un joueur qui joue poste 4-5, quoi. En plus, comme son pote Jaylen Brown, il est devenu All-Star, donc c'est cool. C'est très très cool. Si on fait un petit point sur les perfs, c'est vrai que je ne l'ai pas fait avec Jaylen Brown, mais Jaylen Brown, il a pas envoyé des matchs de gueudin. Il a envoyé 42 points une ou deux fois, mais après, c'est pas... Ah, il ne nous a pas envoyé un match de dingue, complètement dingue. Alors que Julius Randle, il a quand même démonté le Jazz avec 30 points, 16 rebonds, 5 passes. Voilà, ça commence à causer quand même hein, quand tu bats la meilleure équipe de la ligue, que tu poses un petit 30-15, c'est quand même assez impressionnant. Il est passé d'un scoreur rebondeur avec des énormes hier, un peu en mode trou noir, hein, à un véritable franchise player qui a trouvé son rôle et qui fait participer ses coéquipiers au maximum. Donc c'est voilà, pour moi Julius Randle il est largement devant dans cette course au MIP. Et on dit quand même, enfin on dit, en tout cas, il peut quand même dire merci à Tom Thibodeau qui est derrière ce changement, je pense, du joueur, hein, on le sait, on l'a vu, Derrick Rose, Jimmy Butler, hein, quand Tom Thibodeau il aime bien un joueur, ça, en général il en fait quelque chose, il le laisse pas il le laisse pas dans un bourbier sans nom. Et voilà, donc quand même Tom Thibodeau qui est quand même un candidat aussi sérieux au coach de l'année, évidemment. J'ai préféré mettre, on va dire, les coachs qui s'en sortent le mieux par le bilan et par la position au sein de leur conférence et de la ligue. Mais Tom Thibodeau qui emmène New York dans le top 5-6, c'est vraiment très impressionnant aussi. Voilà, on passe enfin au dernier trophée, celui que tout le monde attend, celui qui est en plus, et c'est ça qui est vraiment cool cette saison, complètement pas joué du tout, surtout avec la blessure de Joel Embiid, je vais en reparler juste après, mais c'est vraiment le bordel dans cette course au MVP. Alors je m'excuse par avance si votre top 3 est différent ou si votre favori il n'est pas dans mon top 3, mais cette année c'est vrai que je vous jetterai pas la pierre si vous mettez LeBron James, si vous mettez Damian Lillard, si vous mettez Donovan Mitchell ou Devin Booker. Voilà, moi c'est pas ça mon top 3. J'ai choisi de garder James Harden. Allez, je les donne tous d'un coup. James Harden, Nikola Jokic et pour l'instant c'est Joel Embiid que je vois soulever le trophée à la fin de la saison. Mais on va commencer par ça, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois durant ce podcast, il est blessé là en ce moment et il va rater 2-3 semaines, peut-être un peu plus, histoire qu'il revienne bien et être sûr qu'il se casse pas, hein, parce qu'on sait qu'il est plutôt sujet aux blessures. Alors ces derniers temps ça allait, mais au début de sa carrière c'était plus compliqué. Donc ça peut le freiner, ça peut l'empêcher d'avoir le trophée clairement cette saison, cette fichue blessure. Et d'ici en plus à ce que les Sixers ils retombent un peu, hein, top 3, top 4, attention à la position de favori de Joel Embiid qui peut très vite partir en fumée. Pour revenir un peu sur les stats, on a 30 points de moyenne, 11,5 rebonds, 3 passes, et puis il doit y aller aussi lui de son interception et de son contre, ça m'étonnerait pas. En tout cas, des stats complètement dingue, des stats qu'on aurait aimé voir l'année dernière, hein, puisque on se souvient que Jojo, il parlait beaucoup la saison passée et il faisait pas grand chose, mais cette année, au moins cette année, il parle un peu moins, même si on l'a vu se friter un peu avec, par exemple, au hasard, Rudy Gobert, en disant alors qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Je sais plus. Que Rudy Gobert il était pas très bon, quoi. Que Rudy Gobert il pouvait pas défendre sur lui. Mais cette saison c'est trop fort. Il emmène son équipe sur le toit de la conférence Est. Et puis il démonte tout le monde, toutes les raquettes qui passent par là. Il les découpe. Si je peux faire un petit point sur les performances qu'il a fait, il a battu son record de points en carrière, et ça, rappelez-vous les grosses performances qu'il faut réaliser pour rester dans la tête des votants. Il a fait un gros match à 50 points, 17 rebonds, 5 passes face à c'était Chicago, hein. Chicago c'est pas la meilleure équipe, mais même la raquette de Chicago est pas forcément la meilleure, mais en tout cas fallait quand même le faire, et il l'a fait. Il a aussi envoyé du 45-16, il a envoyé des grosses dingueries dans des victoires, évidemment, toujours, je parle toujours de victoires, plus du 42 points, enfin, de toute façon, pour tourner à 30 points de moyenne, c'est que il a fait des grosses, grosses performances, mais c'est vrai que celle-là, de battre son record en carrière, et puis d'écraser comme ça la concurrence de Chicago, la concurrence, on va dire le... La raquette de Chicago. Après, ce qui est bien avec Embiid, c'est qu'en ce moment, avant qu'il se blesse, il avait un petit coup de mou quand même. Hein, ces derniers temps, les matchs, ils étaient moins, moins impressionnant, mais c'est vrai qu'il roulait sur toutes les raquettes sans aucune exception. Je dis ça, attends, je dis ça, il a envoyé un 40 points. Ah ben non, je suis bête. Bah oui, forcément dans la victoire du de Philly face à Utah. Ben non, c'est là qu'il a trash talk Rudy Gobert. Oui, 40-49, il a fait quand même. Et en plus face à la première équipe de la NBA, en plus dans une victoire. Donc c'est vrai que ah non, j'ai dit des conneries en fait. Hein. Il a quand même envoyé du gros match dernièrement avant sa blessure. Donc c'est vrai que aussi ça, face à un potentiel défenseur de l'année, ça va jouer dans la tête des votants. Mais comme je le dis, voilà, faut pas qu'il rate trop de matchs. Attention, j'ai peur que cette blessure vienne lui couper l'herbe sous le pied. Et qu'il ne puisse pas avoir le trophée de MVP à cause de ça. Je ne suis pas un énorme fan de Joel Embiid. Enfin, y a aucun joueur que je déteste. Mais c'est vrai que ses comportements dernièrement, je trouvais ça pas cool. Cette année, le voir aussi fort, ça fait plaisir. Et donc, s'il peut récupérer le trophée de MVP, c'est tout à son honneur. Voilà, ça c'est mon favori pour... J'ai fait n'importe quoi. Je suis fatigué, ça y est. C'est mon favori pour la course au titre de MVP, mais qui est-ce que je vois juste derrière lui? Un autre pivot, on en parlait déjà un peu partout. C'est vrai que Nikola Jokic, quand même, autre style, mais tout autant dominant, un peu moins puisqu'il n'est pas premier de sa conférence. Les Nuggets sont pas mal remontés, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 3, puisque les Nuggets sont pas mal remontés. Là, ils sont à l'heure actuelle top 5 de la conf Ouest. Ils sont un peu loin du top 4, mais s'ils se donnent un peu, ils peuvent retrouver le top 4. Et quand on voit les statistiques de grands malades que nous offrent, limite, il pourrait être MIP Nikola Jokic, parce que 27 points, 11 rebonds, presque 9 passes de moyenne, une interception et demie. Je sais plus quoi dire après ça, moi. Je sais plus quoi dire. Il met 7 points de plus que la saison dernière. Il prend un rebond de plus. Il fait 2 passes de plus. Limite, il pourrait être MIP. Donc, ça a aucun sens. Il est trop fort. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais Joel Embiid, il tourne presque en 40-90, hein, si je dis pas de... 40-40, il tourne en 50-40-85 pour être très précis. Il prend pas beaucoup de 3 points, il doit en prendre 3-4 aller dans, par match, mais c'est quand même hyper impressionnant pour un pivot tourner en 50-40-90. Pareil pour du côté de Jokic, il est presque en 50-40-90. En fait, tous les 3 là, les 3 que j'ai pris, James Harden aussi, c'est pareil, il est presque en 50-40-90. C'est, on va dire, c'est pas très important, mais ça fait toujours... Ça fait toujours bien sur le CV pour avoir le trophée à la fin. Ça fait toujours bien d'avoir des statistiques très très propres. Donc je disais, Nikola Jokic, il envoie des stats de malade. Les Nuggets se sont repris un peu. C'est vrai qu'ils ont un peu de mal hein, cette saison. Ils ne sont pas aussi dominants que les saisons passées. Et puis en plus, après l'énorme explosion dans la bubule d'Orlando, forcément ça fait un peu tâche. Alors... C'est clairement pas de la faute de Nikola Jokic, en défense peut-être un peu, mais il est pas vraiment aidé par son équipe cette saison, puisque ben, Jamal Murray notamment, qui fait partie des joueurs qui ont explosé dans la bulle, on va pas tergiverser. C'est vrai qu'il est beaucoup moins bon, et du coup, il est beaucoup moins régulier, et ça entache un peu le CV de Monsieur Jokic pour avoir le trophée de MVP à la fin. Pareil, pour dire un peu les grosses perfs qu'il a fait, est-ce qu'il a battu deux fois son record de points? Je ne sais plus s'il a battu deux fois ou s'il a égalisé un week-end, puis il a battu le week-end d'après. Bon, alors il a mis 50 points dans une défaite, voilà. 50, 12 passes et 8 rebonds, c'est très très fort. Mais il a aussi fait, tiens, c'est marrant, les gros pivots, oh là là, c'est pas bon pour Rudy Gobert, ça, en fait. Les pivots les plus dominants de la ligue ont fait des grosses perfs face à Utah. aussi dans une victoire. 47 points, 12 rebonds, 5 assists. Donc c'est, ça joue, hein. Comme je le disais, ça joue dans la tête des votants, ce genre de très très grosse perf. Mais voilà, moi je mets Nikola Jokic en deuxième. Ça peut vous déplaire, ça pourrait vous déplaire, puisque j'ai hésité longtemps avec Damian Lillard, ou même, pourquoi pas, LeBron James, ou je sais pas, un Kawhi Leonard qui fait une grosse saison, malgré le fait que les Clippers, ils aillent un peu moins bien là en ce moment. C'était compliqué pour moi de choisir un top 3, mais je pense que les deux pivots, ils se battent pas mal pour le titre de MVP, et ça fait plaisir. C'est cool de voir des pivots. C'est vrai que c'est un poste qui a été un peu délaissé ces dernières saisons. Donc là, ça fait plaisir de revoir des gros pivots bien dominants en NBA. Je finis avec un mec qui a déjà été MVP et qui, j'avoue, perso, je le voyais pas dans la course au MVP cette saison. Mais il faut avouer que le barbu est tout simplement trop fort. Il a changé sa directive, enfin, on le voit qu'il est content de jouer, il a changé son identité de jeu, on va dire. Donc ça, c'est très cool pour les Nets, ça fonctionne très bien. Je l'ai dit tout à l'heure avec Nash, ils sont deuxième de conférence, limite premier, hein, ça se bataille un peu avec les Sixers. Et puis, je voyais pas, en fait, pour tout vous dire, c'est vrai que Joel Embiid, favori de la course au MVP, mais pour moi, Kevin Durant était hyper, hyper impressionnant, revenir de un an et demi sans jouer et venir poser 31 points de moyenne, être porté son équipe deuxième de conférence et tout, enfin, c'était complètement insensé. Je le voyais largement aussi favori et on va dire le seul qui pouvait embêter Embiid. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça fait très précisément un mois. Alors il a joué un petit match entre temps, il est revenu à un petit match où il... Mais on va dire qu'il a quitté les parquets depuis un mois et une semaine, même un peu plus d'une semaine. Donc ça fait trop de matchs. Et en plus, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait beaucoup de matchs. Et en plus, il ne va pas revenir avant deux ou trois semaines encore. Donc il va rater deux mois de compétition, c'est mort pour qu'il chope le trophée de MVP. Mais par contre, pas de KD, pas de problème. James Harden, je vous ai pas donné les stats, mais donc il tourne à 25 points de moyenne, 11 passes décisives et 8 rebonds, voilà, hyper complet comme d'hab. Puis un petit contre, une petite interception pour aller avec tout ça, pratiquement 50, 40, 90 aussi. Donc ça fait tout simplement 5 saisons que Harden est soit meilleur scoreur, soit meilleur passeur. Pour être très précis, il a fait une saison de meilleur passeur, puis 3 saisons d'affilée meilleur scoreur, puis il redevient meilleur passeur, voilà. Tout va bien. Et puis il porte les Nets dans les hauteurs de la conférence Est. Je l'ai déjà dit. En tout cas, voilà mon troisième favori. Il a fait du sale aussi. Hein. Si je regarde un peu, on va dire, pour vous donner un peu les grosses perfs qu'il a fait avec les Nets. Il a fait un 38-11-7 face à Phoenix. Je suis désolé, je regarde en direct parce que je ne les ai pas dans la tête. Donc dans des victoires, pareil, il a mis 37-7 passes, 11 rebonds face aux Clippers. Bon, voilà quoi. Facile le gars. Il fait encore des triples-doubles tranquilles. Voilà. Franchement, ça fait bien plaisir de retrouver un James Harden qui a l'air hyper content. Ça s'entend super bien avec Kyrie. C'est top tout ça. Maintenant, on sait qu'ils vont être bien plus attendus en playoff. En plus, avec l'arrivée de Blake Griffin, voilà, la saison régulière, c'est un peu une petite balade de santé pour les Nets. Et ils veulent rouler sur tout le monde en playoff. Je crois que je l'ai déjà dit ça tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est cool de voir James Harden dans ce mood-là. Et puis peut-être que ces stats vont retomber un peu avec le retour de Kevin Durant. Mais... voilà pour mon troisième favori au titre de MVP. Peut-être un peu plus étonnant que ce à quoi vous vous attendiez. Peut-être plus tout à l'heure, je l'ai déjà dit, un Damien Lillard, un LeBron, ce genre de gars-là qui gèrent pas mal aussi leur saison. En tout cas, tout reste ouvert, hein, parce qu'avec la blessure d'Embiid, s'il rate trop de matchs, ce sera un autre joueur. Et pour moi, du coup, ce serait plus Nikola Jokic qui serait en pole position. En tout cas... j'en ai fini avec tout, on va dire, mes petits pronostics, mon petit point sur les trophées de la saison 2021. Je fais un petit résumé vite fait. Donc, j'ai dit Joel Embiid en MVP, Monsieur Julius Randle en MIP, en défenseur de l'année, je vois Rudy Gobert, coach de l'année, évidemment, Quinn Snyder et le Jazz, hein. Sixième homme, évidemment, Jordan Clarkson et le Jazz, ça fait beaucoup de musique. Et le rookie de l'année, pour l'instant, la Melo Ball, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Encore une fois, il a été beaucoup trop long, comme d'habitude. Je dis que je vais faire 30 minutes, je fais une heure. J'espère que celui-ci vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à venir vous abonner sur Instagram, venir discuter aussi, puisque là, du coup, venez me donner vos favoris pour chaque trophée. Ça me ferait bien plaisir qu'on en discute. N'hésitez pas aussi à partager le podcast autour de vous, tous vos amis fans de NBA, à mettre des étoiles et des pouces sur les applications où c'est possible. Moi, je vais vous laisser ici, tranquille. On se retrouve au prochain podcast. C'était Lenny. Des bisous, salut !